Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel, Idriss Etazaoui, élu MoDem d'Evreux, vice-président de l'association Villes et banlieues de France. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Idriss Etazaoui, il y a un an, des élus appartenant à toutes les formations politiques lançaient ce qu'on a appelé l'appel de Grigny. J'aimerais qu'on fasse le point sur cet appel. Est-ce qu'il a été entendu? Quelles sont vos attentes? D'abord, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement ce qu'était cet appel de Grigny?
Alors, l'appel de Grigny s'est constitué au lendemain de ce que nous avons appelé un été meurtrier, où le gouvernement d'Emmanuel Macron a pris deux décisions importantes et impactantes pour l'ensemble des 1500 quartiers prioritaires de France, que sont la diminution significative des contrats aidés et la baisse des crédits de la politique de la ville. Deux décisions qui mettaient à mal l'engagement des élus sur ces territoires, qui mettaient en difficulté également le tissu associatif sur chacun de nos territoires, et il convenait, pour ce qui nous concerne, nous, élus locaux, de réagir et donc de ne pas laisser se faire de manière brutale, soudaine, une volonté manifeste qui n'allait pas, avons-nous pensé, dans l'intérêt des 5,5 millions d'habitants domiciliés sur ces territoires.
Donc ça, c'était l'année dernière. Entre-temps, il y a eu un conseil présidentiel des banlieues, une grande réunion des élus de quartier. Je me souviens, c'était pendant le Ramadan. Emmanuel Macron qui s'est exprimé à l'Élysée en présence de Jean-Louis Borloo. Il y avait Yacine Bellatar sur la scène qui introduisait les différents acteurs de la ville. Vous étiez présent dans la salle et il y a eu un peu de déception ce jour-là.
Yacine Bellatar était effectivement le maître de cérémonie. 400 personnes, des forces vives, représentants associatifs, élus locaux, bref, toutes les personnes qui, de manière directe ou indirecte, sont engagées dans l'amélioration du quotidien au sein de ces quartiers. Et effectivement, l'attente était grande quant à la prise de parole du président de la République à l'Élysée. Mais si vous le voulez bien, Loïc, et peut-être que pour vos auditeurs, on peut expliquer quand même, parce que de l'appel de Grigny, donc au mois d'octobre, nous nous sommes retrouvés à la ville de Grigny avec Philippe Rio, le maire de cette commune, et nous avons donc décidé de porter le combat de manière à faire respecter la dignité de nos habitants, de nos concitoyens sur ce territoire. Et nous nous sommes, avec un certain nombre d'associations, constituées en l'état généraux. Et donc, de ville en ville, nous sommes allés prêcher la bonne parole et nous avons fait un lobby auprès de Matignon, auprès du Premier ministre.
Ça, c'est du bon lobbying.
C'est du bon lobbying. Avons-nous pensé? Et nous pensons toujours. Et c'est aussi le rôle d'une association d'élus, telle que Ville et banlieue, que d'aller à la rencontre de nos décideurs, de nos ministres, de manière à les convaincre sur la nécessité de rétro-pédaler, en tout cas, sur les décisions qu'ils avaient prises. Et effectivement, l'aboutissement de cette manifestation, de notre volonté, a été cette prise de parole à l'Élysée, au mois de mai dernier, par le président de la République, qui lui-même, alors même que nous nous étions mobilisés, et face à la gronde, face à la colère des habitants de ces quartiers, aux élus locaux, mais aussi aux responsables associatifs, le président de la République avait décrété, lors d'un discours à Tourcoing, au mois de novembre, une mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Je le rappelle, c'est là qu'il a missionné donc Jean-Louis Borloo pour travailler à un plan qu'il a lui-même enterré quelques mois après, avec Jean-Louis Borloo. D'ailleurs, il a enterré les deux, avec tout le respect que je dois à Jean-Louis Borloo, auprès de qui j'ai travaillé quelques temps sur la rédaction de ce plan. Et puis, donc, lors de son allocution, et Jean-Louis Borloo était assis au premier rang, le président de la République a eu cette fameuse formule, cette expression choc, qui consistait à dire « ce ne sont pas deux blancs qui vont décider pour les 1500 quartiers prioritaires de France ». Donc des plans, j'en ai connu, cela n'a pas fonctionné, et désormais j'ai une feuille de route à vous proposer. Et
c'est effectivement, bien de rafraîchir la mémoire, effectivement, puisque l'actualité chasse l'autre.
Oui, on oublie.
Ça, c'est le mois d'avril dernier. Hein.
On oublie, absolument. Et donc au mois de mai, le président de la République fait un certain nombre d'annonces, mais qui sont en deçà, très en deçà, finalement, des attentes et des enjeux que nous avons constatés sur les quartiers. Alors même que le président de la République dresse un diagnostic et un constat sur ce territoire,
vous
en matière de sécurité, d'éducation.
Vous étiez plein d'espoir avant ce discours. Vous étiez invité à ce micro et vous étiez plein d'espoir.
plein d'espoir et en même temps rempli de colère. Je ne comprenais pas que le président de la République et son gouvernement prennent ce type de décision et qu'ils s'y accrochent. Donc quand ils nous invitaient à l'Élysée pour nous dire « j'ai des annonces à vous faire », c'est l'optimisme chevillé au corps finalement que nous nous sommes rendus à l'Élysée en espérant obtenir pour nos quartiers, pour nos territoires, gain de cause. Force est de constater que la prise de parole du président, si elle était bonne sur le constat et sur la description qu'il a faite de ces territoires-là, je vous le disais, en matière de sécurité, d'éducation et d'emploi, il visait juste, eh bien, sur les préconisations et sur ses recommandations, nous étions bien en deçà, finalement, de ce que nous pouvions ou ce que nous étions en droit d'attendre pour nos quartiers. Donc c'est à cette occasion qu'il a effectivement enterré et le plan et Jean-Louis Borloo, en disant il n'y aura pas de plan.
Et il avait fait tout de même une promesse qui ne semble pas avoir été finalement tenue. Il avait dit on va se réunir tous les deux mois et on fera le point sur les avancées pour les quartiers populaires tous les deux mois.
Oui, il s'était engagé lors de sa prise de parole au mois de mai à nous réunir dès le mois de juillet avec de nouvelles annonces.
Alors, entre-temps, il y a eu l'affaire Benalla. J'imagine que ça a perturbé un peu le
et la Coupe du Monde. Plan.
Et la Coupe du Monde.
Et la Coupe du Monde également. Je préfère retenir la Coupe du Monde plutôt que l'affaire Benalla. D'un naturel qui consiste à retenir les bonnes nouvelles plutôt que les mauvaises. Effectivement, l'actualité a été chahutée. En tout état de cause, nous avons eu une prise de parole, non pas celle du président de la République, mais de ses ministres. Jacques Mézard, qui aujourd'hui est à l'issue du remaniement, n'est plus ministre, et Julien de Normandie. Et donc au mois de juillet, nous avons eu un certain nombre d'annonces, de nouvelles annonces à la suite de la prise de parole du président de la République, qui a été une prise de parole ratée, il faut bien le dire, il faut bien en convenir. Et je pense que le président de la République lui-même a pris conscience que son allocution ne répondait pas aux attentes et aux exaspérations. Et c'est la raison pour laquelle, dès le mois de juillet, et à l'issue d'un comité interministériel, Jacques Mézard et Julien de Normandie ont fait un certain nombre d'annonces et ont dressé une feuille de route qui, là, commençait à répondre à un certain nombre des questions que nous avons à leur poser.
Alors, est-ce qu'on peut faire un résumé de ces annonces ?
Oui, alors, le président de la République a enterré le plan et on s'aperçoit finalement, dès le mois de juillet, et dans la prise de parole des deux ministres, que ce plan revient, mais en catimini.
Donc il ressuscite, de manière effectivement discrète.
Discrète, oui. Très peu de personnes finalement en ont entendu parler. Bon, pour le coup, je ne comprends pas, parce qu'on a un vrai problème de communication à l'Élysée et au sein du gouvernement, parce que les nouvelles qui nous ont été communiquées sont de bonnes nouvelles.
Alors, on va en parler.
On va en parler, je vous donnerai quelques mesures par politique publique, mais ce sont de bonnes nouvelles qui vont dans le bon sens, et malgré tout, alors vous avez raison de le rappeler, l'actualité est venue étouffer finalement ces bonnes mesures. Et le rapport Borloo, de manière partielle, a été repris dans la bouche de Jacques Mézard et de Julien de Normandie.
Alors quelques exemples, Driss et Tazaoui.
Alors dans le domaine de la sécurité, ce sont par exemple 1300 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes d'ici à l'année 2020 qui seront déployés sur 60 quartiers. C'est une bonne chose. La police de sécurité du quotidien est une bonne mesure qui va permettre de réconcilier les habitants de nos quartiers avec l'uniforme. Et nous avons absolument besoin de recréer du lien entre celles et ceux qui sont censés nous protéger et celles et ceux qui regardent la police et la gendarmerie avec défiance. Cette police-là est importante, j'y mets une limite, c'est qu'aujourd'hui le déploiement n'est pas suffisant de mon point de vue. J'étais à une réunion à l'AMF cet après-midi. L'Association des maires de France, avec qui l'Association des maires villes et banlieues de France tenons une commission commune, la commission politique de la ville. Et donc, nous avons eu l'occasion d'interroger le commissaire général à l'égalité des territoires. Je lui ai dit que la police de sécurité du quotidien, c'était une bonne mesure, qu'elle allait dans le bon sens, mais qu'il fallait la déployer non pas sur 60 quartiers, mais sur l'ensemble des quartiers de France. Et j'aurais aimé aussi qu'il nous précise les critères des communes qui ont été retenues au titre de l'expérimentation. Certaines en ont le droit, d'autres sont dans l'attente.
Vous avez des exemples frappants de communes qui sont en demande et qui n'ont pas eu de...
Je peux vous parler de ma ville. Évreux, aujourd'hui, demande, on a encore eu des échauffourées. Là, on est vraiment en plein dans l'actualité. Dimanche soir, il a fallu que les forces de l'ordre interviennent sur un quartier prioritaire qui est le quartier de la Madeleine pour repousser une vingtaine d'assaillants, donc avec des grenades lacrymogènes. Donc, on a eu une mini-émeute sur ce quartier-là. Et pour prévenir ce type d'incident, nous avons besoin de forces de police déployées sur ces territoires et des forces de police qui soient des forces de police de proximité au quotidien sur ces territoires. Et nous ne les avons pas encore et nous ne comprenons pas pourquoi.
Donc une annonce intéressante que vous saluez, mais qui a du mal à se concrétiser sur le terrain.
Qu'il convient de déployer sur l'ensemble des 1500 quartiers de France, je ne comprends pas. Alors si, je comprends, pour des raisons budgétaires, je pense que le gouvernement aujourd'hui n'a pas les moyens de ses ambitions et de déployer l'ensemble de ses forces de l'ordre sur le territoire national. Mais dont acte, on progresse, mais moi j'appelle le gouvernement à aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus fort, de manière à ce que sur nos territoires, et l'actualité nous le montre tous les jours, on a encore eu deux morts sur ces territoires-là, deux jeunes qui sont décédés, on a besoin que l'État réinvestisse à travers la sécurité ces territoires-là.
Driss Etazaoui, dans le précédent gouvernement, il n'y avait pas de ministre de la ville, ça c'était une de vos demandes.
Oui.
Aujourd'hui, Julien de Normandie est officiellement en charge de ce dossier et aussi du logement. Le retour d'un ministre de la ville identifié comme tel, ça, c'est une avancée pour vous.
Alors, permettez-moi d'abord de saluer Jacqueline Gourault, qui fait partie de la même famille politique que moi, puisqu'elle est Modem, qui est aujourd'hui ministre de plein exercice, et qu'elle est à la tête d'un très grand ministère, qui est celui de la ville et du logement, mais également celui des relations avec les collectivités territoriales, avec deux ministres sous sa responsabilité, ou en tout cas sous sa tutelle, Sébastien Lecornu pour la relation avec les collectivités territoriales, avec les territoires.
Un élu qui n'est pas très loin d'Evreux, d'ailleurs.
J'allais vous le dire, je salue Sébastien Lecornu, je ne sais pas s'il écoute Radio Orient, mais s'il écoute, je le salue bien bas, et j'aurai plaisir à le recevoir à Évreux. Donc, Jacqueline Gourault, qui est un ministre qui, depuis le début de sa prise de fonction au sein de ce gouvernement, au sein du gouvernement d'Edouard Philippe, a su faire preuve de connaissance et de savoir-faire dans l'ensemble des dossiers qu'elle a eu à traiter. Donc, moi, je salue Jacqueline Gourault et je remercie Julien de Normandie, parce que c'est un ministre qui a été et qui est encore aujourd'hui très attentif à la question des banlieues. J'ai vraiment le sentiment, alors peut-être je pêche par naïveté, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il est imprégné par la situation de ces territoires et que pour lui, plus que pour d'autres encore, il convient de donner plus à ceux qui ont moins. Et je le vois sur les réseaux sociaux, il est constamment en déplacement au sein des territoires prioritaires. Donc on ne pourra pas lui reprocher de ne pas être ancré et aux prises avec la réalité de ces quartiers.
Et diriger à la fois la ville et le logement, ça a un sens particulier pour
oui,
vous ?
Oui, il y a du lien. Mais vous savez, la politique de la ville est une politique publique d'exception qui mobilise l'ensemble des politiques publiques de droit commun, que ce soit le logement, l'emploi, la sécurité, l'éducation. Donc le logement, il y a un lien, notamment sur la question de la mixité, sur la diversification du peuplement, sur l'ensemble de ces questions-là. Par exemple, les plans de sauvegarde, également, au sein des quartiers prioritaires. L'ANRU, le logement, c'est éminemment important dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, puisqu'on déconstruit des immeubles, puisqu'on réhabilite des immeubles, puisqu'on résidentialise des immeubles. Donc, il y a effectivement du sens à adosser la politique du logement à la politique de la ville.
La question de la politique du peuplement, vous nous en avez parlé la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau.
Oui.
Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? C'est finalement faire en sorte que tous les problèmes ne se concentrent pas sur un même territoire ?
Tout à fait. Depuis des décennies maintenant, les pouvoirs publics, et là, prends ma part de responsabilité, même si c'est mon premier mandat local, les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'État, n'ont eu de cesse sur ces territoires-là que de concentrer la pauvreté. Puisque le logement social est concentré sur ces territoires-là, donc ce sont des logements à très bas revenus, et ben on y concentre la pauvreté. Et systématiquement, on ajoute de la précarité à la pauvreté. C'est-à-dire que quand on a des vagues migratoires qui arrivent, on les met sur les quartiers prioritaires. Quand on a des DALO, c'est-à-dire le droit opposable au logement, des gens qui sont en extrême difficulté, on les positionne sur ces territoires-là. Et si vous y ajoutez les communautés les unes sur les autres, et bien c'est comme ça qu'on crée du ghetto. Et donc il est absolument nécessaire de réfléchir à la diversification du peuplement, c'est-à-dire comment on réalise de la mixité en termes de revenus, donc de l'accession à la propriété sur ces territoires-là, comment finalement on dédensifie ces quartiers-là, comment on fait pour amener des ménages finalement en relevant les plafonds de ressources au sein du logement social, mais des ménages un petit peu plus aisés, voilà, de manière à ce que on puisse avoir des liens au sein de ces territoires-là, entre les habitants, qui soient des liens positifs.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de dilution du pouvoir sur la politique du logement ? Vous avez l'État, à travers le ministre du Logement, les préfectures, vous avez la région, vous avez les villes, vous avez des majorités qui ne s'entendent pas toujours entre elles. Comment on arrive à à changer, à casser les ghettos quand les pouvoirs ne s'entendent pas entre eux?
Alors, vous savez, hein, je peux vous dire, hein, on peut avoir même des amis au sein d'un département ou d'une intercommunalité. Et le plus souvent, j'ai envie de dire, c'est avec nos amis qu'on a des difficultés. Donc, quand on n'est pas de la même obédience ou les mêmes étiquettes politiques, j'ai même le sentiment, au regard de mon expérience aujourd'hui, que les relations sont peut-être beaucoup plus faciles que lorsqu'on appartient à la même famille politique. Mais peut-être qu'Evreux est une exception et que la règle, c'est je m'entends bien avec celles et ceux qui sont issus de la même famille politique que moi. Mais je ne crois pas que la question des étiquettes politiques ou des amis, entre guillemets, prennent beaucoup sur ces considérations-là. Moi, je crois les élus locaux responsables et raisonnables, et qu'à partir du moment, effectivement, où l'explication leur est donnée qu'on ne peut pas ajouter de la difficulté à la pauvreté ou à la précarité, eh bien, chacun prend ses responsabilités. Alors, la région n'est pas compétente sur la question du logement, ce sont souvent les communes, mais également les départements, et ainsi que l'État pour ce qui est du contingent préfectoral. Une dernière chose, c'est sur la politique du logement, c'est que ce qu'on constate et ce que nous disent les bailleurs, c'est que tous les deux ans, vous avez 20% d'habitants qui sortent de ces territoires-là. Pour un certain nombre de raisons, parcours résidentiel, une famille qui s'agrandit, une mobilité professionnelle, etc. Et donc, quand ils partent, ils vont mieux et on récupère derrière des populations qui sont encore plus fragiles et plus précaires que celles qui sont parties. Et donc, c'est un cercle vicieux dont il faut sortir.
Vous préconisez plus de mixité sociale dans les logements sociaux?
Mixité sociale, mixité culturelle également. Moi, je pense que la mixité, c'est aussi de faire en sorte, même s'il existe un communautarisme par affinité, c'est-à-dire qu'une personne d'une certaine origine se sentira beaucoup plus proche d'une personne d'une autre origine et souhaiterait éventuellement s'installer à proximité ou dans un quartier où est-ce que l'offre commerciale, par exemple, convient à cette catégorie de population, il faut absolument casser ce cercle-là si on veut créer de la mixité.
Pour parler franchement, vous évoquez les commerces halal dans certains quartiers, par exemple?
Par exemple, ils sont nécessaires, mais on a aussi besoin d'avoir une boucherie classique. Voilà, parce que sur nos quartiers, nous n'avons pas que des personnes ou des habitants de confession musulmane. Et si on veut sortir du ghetto, si on veut sortir du communautarisme, il faut aussi que l'offre commerciale puisse répondre à l'ensemble de la demande et non pas à une demande particulière.
Et les pouvoirs publics ont la main sur l'offre commerciale?
Oui, on peut avoir la main, les villes ont la main à travers la préemption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune, dans le cadre de la politique de la ville, peut préempter un certain nombre de commerces et décide à qui elle loue son commerce. Et à partir de là, sur Évreux, je peux vous donner un certain nombre d'exemples sur Évreux, avec le maire d'Évreux, nous sommes d'accord sur le fait que sur nos trois quartiers prioritaires, il faut sortir des kebabs, il faut sortir de la viande halal, et qu'il faut diversifier l'offre commerciale, préempter un certain nombre de commerces, de manière à ce que l'offre correspondent ou répondent à l'ensemble de la demande et pas à une demande communautaire.
Mais vous n'avez pas le sentiment parfois
même si
que
légitime.
Même ce type de politique peut être perçu comme xénophobe, osons le mot?
Non, pour le coup, pas du tout. Vous savez, quand je suis à Évreux, au conseil communautaire ou dans les commissions liées à la diversification du peuplement sur ce qu'on appelle la convention intercommunale du logement, mais là, ça devient un petit peu complexe et un peu techno. Mais l'idée, je le dis clairement, moi, je le dis et je peux le dire avec d'autant plus de facilité que je m'appelle Driss Etazaoui. Et donc, de dire, écoutez, avoir des cages d'escalier avec que des familles d'origine turque, ce n'est pas acceptable. Avoir des cages d'escalier qu'avec des familles issues du Maghreb, ce n'est pas acceptable. Avoir des cages d'escalier avec des familles issues de l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas acceptable. Alors quand c'est un Driss Etazaoui qui le dit, c'est beaucoup plus facile effectivement que si c'est un Loïc Barrière qui le dit. Mais je le dis avec beaucoup plus de facilité que j'y crois. Et je pense que la République et faire corps dans la République, c'est aussi tenir ce type de discours.
L'invité de Pluriel, Idriss Etazaoui, je rappelle que vous êtes élu MoDem d'Évreux, vice-président de l'association Villes et banlieues de France. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Driss Etazaoui, élu MoDem d'Évreux, vice-président de l'association Villes et banlieues de France. Alors, le plan de lutte contre la pauvreté annoncé récemment par Emmanuel Macron comprend un certain nombre de mesures en faveur des quartiers prioritaires. Je prends l'exemple de l'ouverture de crèches, la création d'offres de petits déjeuners pour les enfants qui arrivent le ventre vide à l'école, dans les quartiers défavorisés, un tarif social pour les cantines au prix de 1 euro le repas. Est-ce que vous approuvez ces mesures? Est-ce qu'elles vont dans le sens de l'appel de Grigny?
Et vous pouvez également ajouter les 20 millions d'euros dans le cadre de la politique de la ville qui sont débloqués pour financer des postes d'ATSEM supplémentaires. Vous savez, les ATSEM, ce sont ces agents-là qui accompagnent les enfants à la cantine scolaire, etc. Le plan pauvreté, et pour un certain nombre de mesures, en tout cas celles que vous évoquez, figuraient dans le plan banlieue de Jean-Louis Borloo. Donc elles ont été reprises, vous voyez, il y a d'autres mesures, on n'a pas encore eu le temps, peut-être qu'on va pouvoir les aborder tout à l'heure, je ne vous ai parlé que de la sécurité, mais il y a d'autres mesures qui vont dans le bon sens, que ce soit sur l'éducation, sur l'emploi, sur le logement et le cadre de vie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le plan pauvreté concerne en particulier les quartiers prioritaires, pourquoi? Parce que la pauvreté, elle est là. C'est aussi simple que ça. Je rappelle juste que les 1500 quartiers prioritaires de France ont été zonés sur un indicateur qui est celui de la densité de pauvreté. C'est-à-dire que l'État, les énarques, qui ont réfléchi à ce zonage, ont fait des calculs savants qui permettent de dire que sur tel territoire, on avait une concentration de pauvreté importante et qu'il convenait donc de donner davantage de moyens à ces territoires-là. Jean-Louis Borloo disait, je le rejoins, ces territoires, c'est 30% de moyens en moins pour 30% de besoins en plus. Donc il fallait absolument intervenir sur ces territoires. Et donc je ne suis pas surpris que le plan pauvreté, que ce soit, vous l'avez dit, sur les repas de cantine à 1 euro, que ce soit sur le financement des ATSEM, ou que ce soit sur la généralisation des petits-déj, à Évreux, nous l'avons déjà mis en place. Alors, pas généralisé, mais d'année en année, il y a une école qui est choisie, et nous offrons les petits-déjeuners pour les enfants, parce que c'est éminemment important de bien commencer sa journée. Donc ce sont aussi des mesures que nous saluons.
Parmi les mesures annoncées, il y a aussi l'obligation de se former jusqu'à 18 ans. En clair, les jeunes ne pourront pas se trouver sans solution, même s'ils ont quitté l'école à 16 ans. C'est pour lutter contre le décrochage scolaire. Est-ce que les élus locaux auront les moyens de mettre en œuvre une telle mesure? Parce que c'est une mesure qui vient du haut. Est-ce que, je dirais, dans les territoires, on peut réaliser cette promesse?
C'est une excellente question qui a été soulevée cet après-midi lors de la commission de l'Association des maires de France avec Ville et banlieue de France et l'ensemble des élus qui étaient présents. C'était de dire, d'abord, nous saluons l'ensemble des mesures. Beaucoup de mesures vont dans le bon sens. Et en même temps, on se pose la question de la manière dont elles vont se traduire sur nos territoires respectifs. La question est excellente. Nous n'avons pas encore la réponse. Les modalités restent à concevoir. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une volonté du gouvernement qui est une volonté forte. 85 millions d'euros supplémentaires sur la politique de la ville. Rappelez-vous, Grigny, c'était, puisque nous nous sommes battus, c'était 40 à 50% de crédit en moins sur un certain nombre d'opérations en cours d'année que nous avons dû abandonner. Et là, on nous annonce 85 millions d'euros supplémentaires dans la loi de finances 2019. Et ce ne sont pas des crédits qui ont été récupérés sur d'autres lignes, mais ce sont de vrais et de nouveaux crédits.
Mais la difficulté, Driss et Tazaoui, c'est de repérer les personnes qui ont besoin d'être aidées et qui, par définition, ne viennent pas chercher de l'aide. Comment les élus locaux dont vous faites partie font pour repérer ce public? Parce que le délégué interministériel chargé de la pauvreté disait que certaines personnes répondaient à toutes les cases et cela a été aidé. Mais il y a des gens qui sont hors cadre.
C'est une réalité. Moi, j'ai eu une discussion lors d'un déjeuner de travail avec le directeur départemental de la Caisse primaire d'assurance maladie qui me disait, moi, j'ai une difficulté, c'est que j'estime 15 à 20% de nos assurés sociaux qui aujourd'hui ne sont pas au courant de leurs droits et pour le coup, qui n'ont pas accès aux soins. Et il me dit, moi, j'ai du mal à les capter, ceux-là. On n'arrive pas à les faire venir, on n'arrive pas à les toucher. On a beau mener des campagnes de sensibilisation, de communication, vous avez des droits, eh ben, on n'arrive pas à les capter. Alors, quand on est élu local, et quand on a un bon élu local, on connaît bien son territoire. On connaît bien les forces vives qui y sont. Et donc, on arrive à mailler nos territoires, nos quartiers, et on arrive à avoir des relations avec le tissu associatif, avec les syndicats, avec les associations de parents d'élèves, bref, avec celles et ceux qui font ces territoires.
Un élu local, c'est quelqu'un qui fait remonter l'information?
Bien sûr. Aussi, aussi, c'est quelqu'un qui est imprégné des difficultés et des dysfonctionnements qui touchent son territoire. Et à partir de là, c'est quelqu'un qui fait non seulement remonter les informations, mais qui essaie de trouver les solutions qui vont bien pour y répondre. À Évreux, l'une des difficultés, excusez-moi, je parle de mon territoire, mais ce qui est vrai pour Évreux est vrai également pour d'autres collectivités.
Nous sommes écoutés à Évreux,
et tant mieux, je salue,
et diffusé à Évreux.
Je salue mes administrés d'Évreux, les Évreuxiens et Évreuxiennes qui nous écoutent, ils ont raison d'écouter Radio Orient, en tout cas aujourd'hui. À Évreux, nous avons une difficulté, c'est que la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale ont déserté un quartier de 10 000 habitants, le quartier de la Madeleine. C'est un petit village. Et de ne pas avoir une offre de proximité en matière de services publics et d'accès aux droits sur un territoire comme celui-ci, c'est quelque chose qui affecte les habitants. Et quand vous êtes sur le territoire, vous le ressentez.
Donc c'est le retour des services publics. Là,
c'est le retour des services
réclamez.
Publics. Mais vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un bon élu local. Et un bon élu local, c'est celui qui va entendre ce que disent les administrés, qui va non seulement le remonter à celles et ceux qui ont une part de responsabilité dans le processus de décision et qui va faire en sorte de mouiller la chemise pour répondre à la demande des administrés.
Driss Etazaoui, est-ce que tous les petits Français sont traités de la même façon à l'école ou bien on peut affirmer que selon votre adresse, si vous habitez un quartier défavorisé, vous n'avez pas le droit à la même éducation que les autres ?
C'est une question difficile. D'abord, je poursuis ou je prêche davantage pour l'équité plutôt que pour l'égalité. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. L'équité, c'est donner à chacun en fonction de sa situation, de ses difficultés, de ses limites, de ses avantages, etc. Et donc, en matière de politique de la ville, je réfléchis davantage en termes d'équité plutôt qu'en termes d'égalité. Après, parce que derrière, la question que vous posez, c'est celle de la discrimination, et notamment la discrimination à l'école. Est-ce qu'effectivement, nos enfants scolarisés dans les réseaux d'éducation prioritaire ont-ils les mêmes chances de réussite que les enfants des autres établissements ? C'est une question difficile. Moi, je sais le combat, l'engagement, le dévouement des personnels pédagogiques au sein des collèges et au sein des écoles élémentaires. Force est de constater que le décrochage scolaire est quand même beaucoup plus prégnant sur ces territoires-là que sur le reste du territoire. Mais force est de constater également, cher Loïc, excusez-moi, je vais juste au bout, que les résultats, notamment les résultats au collège, sur, par exemple, l'obtention du brevet, est bien en deçà, au sein des réseaux d'éducation prioritaire, que sur le reste du territoire. Donc c'est qu'on a, un vrai souci, et que les qualités des chances, ça n'est pas réel.
Si vous mettez tous les meilleurs professeurs de France dans ces quartiers populaires, et qu'en même temps, vous oubliez de vous occuper des inégalités sociales vécues par ces familles, est-ce qu'on peut réussir à l'école ?
Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas les meilleurs enseignants qu'on met dans les rues. Ce sont les nouveaux enseignants. On leur demande de se faire les dents au sein des quartiers prioritaires et finalement, ils s'y cassent les dents pour un certain nombre. Alors, il y en a beaucoup qui sont...
Mais la question que je voulais vous poser, Driss Etazaoui, c'est que une politique, est-ce que c'est uniquement tout axé sur l'école ou bien c'est axé aussi sur la famille de l'élève ?
Mais alors... Pour le coup, c'est un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui sont interdépendants les uns et les autres et qui poursuivent une même finalité, c'est la réussite de l'enfant. Et là, vous soulevez une autre des préconisations du rapport de Jean-Louis Borloo, qui aujourd'hui a été retenue par Julien Normandie, que sont les cités éducatives. Les cités éducatives, le gouvernement va les expérimenter, ce sont 60 cités éducatives qui vont voir le jour très prochainement. Le gouvernement doit communiquer sur les modalités de ces cités éducatives. Mais ça, c'est un engagement fort du gouvernement que je tiens à saluer. Ces cités éducatives vont permettre de mettre en réseau, avant l'école, pendant l'école et après l'école, l'ensemble des protagonistes qui participent, qui contribuent d'une manière directe ou indirecte à l'épanouissement et à la réussite de l'élève. Que ce soit les associations d'accompagnement à la scolarité, après l'école, que ce soit un certain nombre d'associations ou d'autres dispositifs avant l'école ou sur le temps périscolaire, mais chacun a sa responsabilité. L'éducation n'est pas l'instruction. L'éducation, c'est l'affaire de tous. L'instruction, c'est l'affaire de l'école. Et l'objet de ces cités éducatives, c'est de faire en sorte qu'en matière d'instruction et au-delà d'éducation, on puisse effectivement donner aux enfants les mêmes chances de réussir grâce au soutien des uns et des autres, qu'un enfant de bonne famille, entre guillemets.
Donc vous nous invitez à suivre la mise en place de ces cités éducatives. Pour l'instant, c'est un projet qui en est à ses prémices.
Alors l'annonce a été faite, donc 60 cités éducatives. Michel Blanquer et Julien Normandie devraient s'exprimer incessamment sous peu sur les modalités. quelles sont les villes qui vont en bénéficier, sur quels critères.
Vous êtes demandeur, j'imagine, à Évreux.
Vous savez, il y a trois dispositifs aujourd'hui pour lesquels Évreux est passé à travers. Alors que nous avons des difficultés. Les emplois francs, la sécurité à travers la police de sécurité du quotidien et les cités éducatives. Donc vous avez l'emploi, l'éducation et la sécurité. Voilà trois dispositifs qui sont aujourd'hui lancés à titre d'expérimentation et qu'il conviendra de déployer au vu de l'évaluation sur l'ensemble du territoire national. Mais bien sûr qu'à Évreux, nous sommes demandeurs. Hein. Nous sommes demandeurs de l'ensemble des moyens disponibles et susceptibles de faire en sorte de qui vont tirer nos territoires vers le haut.
Alors Driss Etazaoui, tout à l'heure, vous avez évoqué d'autres bonnes nouvelles concernant le logement et le cadre de vie, ainsi que l'emploi. Est-ce qu'on peut évoquer ces questions ?
Oui, alors sur le logement, c'est par exemple l'accélération de la rénovation urbaine. Nous sommes passés de 5 milliards à 10 milliards maintenant, en rappelant quand même que l'État c'est 1 milliard, que Action Logement c'est 7 milliards, donc c'est le plus gros financeur. Et puis ensuite, vous avez les bailleurs sociaux pour 2 milliards. Donc ce sont 10 milliards qui sont mobilisés pour la rénovation urbaine. L'ANRU est en cours de réforme, va être réformé de manière à être plus opérationnel. Vous savez, moi, les habitants à Évreux, ils me disent « Ok, très bien, il y a une opération de rénovation urbaine sur le quartier de Netreville, c'est 100 millions d'euros, on vient juste de signer la convention en rue justement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. » Mais les habitants, les conventions, les études, ils en ont marre. Ce qu'ils souhaitent, c'est voir les grues revenir au sein de nos quartiers. Quoi. Et donc pour ça, bah, il faut des moyens. Quoi. Et quand vous signez la convention, l'illustration, c'est le carnet de chèques qui est sorti avec le montant et chacun s'engage. Quoi. Et là, on sent effectivement... quand j'en discute avec l'ensemble de mes homologues élus, une accélération du processus de signature des plans de rénovation urbaine. Et ça, ça va dans le bon sens.
Sur la question de l'emploi, c'est quand même une politique globale. Comment on peut cibler les quartiers prioritaires ?
Alors, les emplois, je vous le disais, je crois que je l'avais dit la dernière fois, puisque le gouvernement l'avait déjà annoncé, ce sont d'abord les emplois francs. L'expérimentation avec les emplois francs qui permet finalement à un employeur qui recrute sur les quartiers prioritaires, voyez, donc dans le périmètre, ce qu'on appelle un périmètre réglementaire, hein, c'est à la rue, de recruter un chercheur d'emploi et de bénéficier, dès lors que ce chercheur d'emploi est embauché dans son entreprise, d'une prime de 5 000 euros par an. Sur 3 ans, ça fait 15 000 euros pour un CDI, 2 500 euros par an, soit 7 500 euros sur 3 ans, pour un CDD. Donc c'est plutôt une mesure incitative qui va permettre de lutter contre les discriminations et de permettre à des entreprises de recruter et de dynamiser économiquement ces quartiers. Vous avez également le plan formation. Le plan investissement formation, c'est 150 000 personnes qui sont concernées et donc des moyens supplémentaires qui vont être dégagés, puisqu'aujourd'hui le constat c'est toujours celui de l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a des postes, il y a du boulot, mais on n'arrive pas à trouver les bons profils. Et donc, il va falloir les former.
Driss Etazaoui, vous êtes mobilisé sur les questions de politique de la ville. Vous participez à de nombreuses réunions. Vous travaillez notamment avec les maires de Poissy, de Chanteloup-les-Vignes. Vous travaillez notamment sur la question de l'image des quartiers populaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des idées qui sont en gestation ?
C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous le savez, j'ai co-présidé à la demande du ministre Jacques Mézard et de Julien Normandie l'un des groupes de travail national sur la question de l'image du quartier et donc le rapport aux médias et la manière dont les médias traitent dans l'actualité les informations sur ces territoires-là. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps, j'étais sur le plateau de BFM et pour commenter le dramatique lynchage de ce jeune garçon à Garges. Et mon premier mot a été de dire, attendez, vous savez, sur nos territoires, ce qu'il convient d'abord de dire en préambule, c'est qu'entre la médiatisation de l'hyper-échec de 2 à 3%, la médiatisation de l'hyper-réussite sur nos quartiers de 2 à 3%, vous avez 95% de la population qui ne demande rien, sinon le droit à la banalité. Et donc, il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, sinon vous jetez l'honneur et la dignité de ces gens-là aux chiens. Il faut absolument s'opposer toutes les manières possibles à ce traitement médiatique, ou plutôt à cette maltraitance médiatique qui affecte nos quartiers.
Éric Zemmour fait beaucoup de mal aux quartiers populaires.
Oui, oui, il y a même un procès d'ailleurs de la ville de Grigny, que la ville de Grigny a intenté à Éric Zemmour concernant les quartiers prioritaires. Mais que ce soit Éric Zemmour ou d'autres rédactions, Il y avait des rédactions, finalement, qui, pour faire du sensationnel, ou pour faire du papier, ou pour faire de l'image, n'hésitent pas à consacrer des équations douteuses, à savoir délinquance est égale immigration, est égale quartier, est égale terrorisme, est égale fondamentalisme. On l'a tous connu, ça. Il y a tous regardé une émission d'M6 où, sur un fond sonore anxiogène, on nous dit « attention, il y a péril dans la demeure sur ces territoires-là ». Et le pire, c'est que les habitants ne se reconnaissent pas dans ces territoires. Les médias dépeignent un territoire ou un quartier dans lequel nos habitants, nos concitoyens, ne se reconnaissent pas. Et pour le coup, l'incidence, elle est multiple. C'est-à-dire que tous les moyens humains, matériels et financiers que vous avez investis sur ces territoires-là, dès lors que vous avez un reportage comme celui d'M6 à Évreux, par exemple, eh ben, c'est le marché immobilier qui s'effondre. Vous ne vendrez plus au prix auquel vous vouliez vendre avant le reportage. C'est les investisseurs qui se désengagent pour ceux qui étaient là ou qui ne viennent plus pour ceux qui avaient envie de venir. Donc, vous voyez, on a des conséquences fâcheuses. Et c'est un vrai sujet, la question de l'image des quartiers.
Il y a une loi sur les fake news. Vous auriez aimé que cette question de la désinformation figure dans cette loi ?
Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère, le commissariat général à l'égalité territoire, avec des grands groupes télé également sur la question de l'image des quartiers, notamment à la suite des préconisations que nous avions formulées, et sans dévoiler ce qu'il sera très probablement lors du premier trimestre, 2019, nous allons mettre en œuvre avec l'ensemble de nos partenaires un certain nombre, ou en tout cas deux ou trois propositions fortes sur la lutte contre la maltraitance médiatique.
Voilà, vous préférez plus de responsabilité de la part des décideurs dans les médias plutôt que des lois qui seraient coercitives et inefficaces.
Non, il y a un principe simple, c'est la sacro-sainte liberté de la presse. Je pense que ça... Et c'est pas à vous, Loïc Barrière, que je vais le dire. Il vous appartient de dire ce que vous voulez, sur le truc que vous voulez, à partir du moment où vous pensez que c'est une information fiable, à partir du moment où elle est vérifiée, que vous avez croisé les sources. Nous, ce sur quoi on souhaite se prémunir, ce sont les raccourcis. Et des raccourcis qui sont souvent périlleux et qui ne correspondent pas à la réalité, qui font beaucoup plus de mal qu'autre chose. Surtout quand l'intention est une intention qui n'est pas louable, mais qui est celle de faire du papier, je le disais, ou de faire de l'audimat. Donc, nous avons un certain nombre de propositions. J'espère que vous aurez l'occasion de m'inviter de manière à ce que je puisse vous les présenter.
Avec plaisir. Une dernière question, Driss et Tazaoui. J'ai lu une tribune signée notamment par Mohamed Gassama, élu La République En Marche à Paris. Il appelle à plus de diversité dans les conseils municipaux, à l'image de la société française. Il y a les municipales en 2020. Est-ce que c'est le moment que doivent saisir les responsables associatifs des quartiers populaires pour s'engager politiquement comme vous le faites ?
Je milite d'abord pour que les gens soient reconnus en fonction de leurs compétences, de leur qualité, de leur savoir-faire, de leur savoir-être et surtout de leur engagement au bénéfice des autres. Parce que quand vous êtes engagé politiquement ou même dans le tissu associatif ou dans d'autres milieux, vous poursuivez l'utilité. C'est-à-dire que vous donnez du sens à votre existence, vous plus que de vous contenter d'exister, vous faites en sorte de vivre et de vivre en étant utile aux autres. Et moi, j'invite, c'est vraiment mon premier sujet, d'être reconnu pour ce que vous êtes, ce que vous êtes en capacité d'apporter au sein d'une équipe et pour un projet et au bénéfice des autres, plus que par l'origine. Ensuite, j'appelle effectivement les décideurs, les têtes de liste de demain, mais que ce soit pour les élections municipales, pour les élections européennes, mais également au sein même de nos familles politiques. Moi, si François Bayrou m'entend, je lui dis également. Aujourd'hui, les exécutifs au sein des appareils politiques, pas seulement au sein des conseils municipaux ou au sein des collectivités territoriales, doivent être représentatifs de la population française, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Ce sera aussi le moment de voter en 2019. L'abstention se profile toujours. Vous appelez évidemment à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, notamment à Évreux.
Pour les élections européennes, bien sûr. Alors on sait très bien que les élections européennes sont des élections difficiles, peu compréhensibles par le grand public et qui fait que les gens finalement ne se déplacent que très peu sur les élections européennes. Donc oui, je crains que pour ces élections-là et donc pour l'échéance à venir de l'année prochaine, nous n'ayons qu'une faible mobilisation qui bénéficiera bien malheureusement aux extrêmes. J'appelle mes concitoyens à prendre leurs responsabilités et effectivement s'engager, ne serait-ce qu'en allant s'inscrire sur la liste électorale, à être en capacité de voter l'année prochaine. Concernant les élections municipales, pour le coup, je pense que les administrés et les habitants sur chacune de leurs communes sont conscients des enjeux qui les concernent et sont mobilisés. Hein. Les élections municipales, ce sont probablement les élections qui mobilisent le plus des électeurs. Et le maire reste encore aujourd'hui la personnalité politique préférée des Français.
Merci Idriss Etazaoui. Je rappelle que vous êtes élu MoDem d'Évreux, vice-président de l'association Villes et Banlieues de France. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.